wins 100 points out to the West.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Le Déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnues. Au large, nulle terre en vue. L'affréteur accepte de verser une prime si nous arrivons promptement à Londres.
Un excellent navire, ça ne fait aucun doute.
Les bêtes ont été déchiquetées.
Elles sont toutes mortes.
On dirait une morsure.
Fouillez le navire. Cherchez partout.
Le mal est à bord. Un mal terrible.
Il boit notre sang. Il est ici. Nous l'appelons Dracula.
Je vais tuer cette créature maudite.
Il est à bord. Aucun monde n'en échappera.
Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous.
Bon début de soirée sur les ondes de Choix Radio X. Bienvenue à ce deuxième épisode de la nouvelle saison de Radio X Files. Et c'est le premier et qui est pratiquement une recommandation cinématographique ce soir. Un film qui vient juste de tomber à l'affiche dans tous les bons cinémas de la région de Québec et de Montréal aussi. Christian Page, bonsoir.
Bonsoir Camille.
C'est le premier vendredi de la thématique de la psychologie et de la cryptozoologie. Oui. Et je te laisse présenter le sujet que tu as déniché pour nous ce soir.
Donc ce soir, on va faire dans le vampire parce que il y a deux nouvelles qui sont passées dans l'actualité au cours des derniers jours que je trouvais très intéressantes. Puis je me suis dit tiens, ce serait le fun de développer ces thématiques-là dans le cadre de l'émission. On vient d'entendre, comme tu l'as mentionné, la bande-annonce du film Le Dernier Voyage du Déméter qui concerne l'aventure de Dracula, si je peux dire, dans le roman de Bram Stoker, Dracula, qui a été publié en 1798. Le Déméter, c'est le navire avec lequel Dracula va faire son voyage de la Roumanie à Londres. Et c'est assez amusant parce que dans le roman de Dracula, tu comprendras que le passage passage de Dracula de la Roumanie en Angleterre, c'est un tout petit épisode dans lequel il se passe pas grand-chose. Mais là, voilà qu'on a décidé de se dire, bon, d'extrapoler un peu ici. Dracula s'était réveillé à bord du Déméter. Qu'est-ce qui aurait pu se produire? Parce qu'effectivement, on est sur un navire donc isolé, difficile de fuir. Donc le film tourne autour de ça. Je sais que les critiques sont assez dures à l'endroit du film, mais néanmoins ceux qui aiment les histoires de vampires et principalement du personnage de Dracula, donc je pense que ça doit s'ajouter à notre saga de film parce que bon, le personnage de Dracula, on le sait, lorsqu'il est question de vampires, c'est un personnage qui a mille et une fois été mis en image dans des aventures souvent très très éloignées du roman de Bram Stoker qui a mis un peu le mythe du vampire dans la culture occidentale. D'ailleurs, on va revenir là-dessus sur la propagation du mythe dans la culture occidentale, mais effectivement notre connaissance des vampires et du personnage de Dracula, bon, on le doit bien sûr à ce roman de Bram Stoker publié à la fin du 19e.
Il faut garder en tête, Christian, que c'est un film pour se divertir et surtout pour se faire peur aussi.
Oh, oui, absolument. Et faut le savoir, le roman de Bram Stoker, sorti en Angleterre en 1897, sorti aux États-Unis l'année suivante, 1898, a été un immense succès. Hein, c'est l'auteur d'ailleurs, Bram Stoker, un auteur irlandais, avait connu peu de succès avant. Ah? Et puis lorsqu'il sort Dracula, il en était à son deuxième ou troisième roman. Et lorsqu'il est sorti, il a sorti Dracula, ça a été un immense succès. Il faut dire que Dracula, On le voit pas comme ça, nous, parce qu'en 2023, on se plonge dans Dracula. C'est un roman qui est somme toute assez vieillot. On se dira, bon, il y a 140 ans. Mais à l'époque, il faut encore se rappeler qu'on est encore une fois dans cette Angleterre excessivement puritaine. Mm. On en a parlé souvent ensemble. Hein. À un moment donné, lorsqu'on évoquait Jack l'Éventreur, je disais que les gens mettaient... Jack l'Éventreur, c'est 1888, donc c'est à peu près à la même époque. On plaçait des nappes sur les tables parce qu'on jugeait indécent de voir les pattes de table. Hein, tu dis là, écoute, c'est aberrant. Mais oui, voir des tables, les pattes des tables étaient jugées indécentes. Donc, on mettait des nappes qui tombaient jusqu'au sol pour éviter de placer et exposer au regard les pattes des tables. Donc, on voit à quel niveau on était puritain. Puis, de toi à moi, faut l'avouer, hein, lorsque Jack l'Éventreur va commettre ses crimes, il y aura un certain intérêt, un engouement du public parce qu'il y a, pour la première fois, dans une presse générale, il y a des mots, des expressions qu'on ne retrouve pas dans la presse grand public. Donc, les gens se... Oh non, mon Dieu, ça arrête pas de sonner un peu partout.
Les gens sont contents de te réentendre au poste.
Ouais, c'est ce que je vois, là. Bon, et donc, c'est ça, dans le cas de l'Éventreur, les gens, on lisait presque le London Times offrait des détails tout à fait croustillants sur les crimes de l'Éventreur. Et on se cachait presque, on avait presque l'impression, là, on pourrait faire un comparatif, c'est comme lire un peu des journaux grivois.
Ben oui.
Parce qu'on se cachait quasiment dans des endroits où on était discret pour pouvoir lire les comptes rendus. Parce que pour la première fois, on voyait en toutes lettres des mots imprimés dans la presse du genre vagin, prostituée. Parce qu'évidemment, les crimes de l'Éventreur nous plongeaient dans cet univers un peu glauque de la prostitution.
Une curiosité malsaine, hein?
Voilà, on disait l'Éventreur l'a éventré, placer son couteau dans le vagin, des mots qu'on voyait jamais, là, presque des mots qui étaient censurés. Donc, ça a créé une espèce de... c'est sûr que ces éléments-là ont contribué à la popularité de l'Éventreur. Dans le cas de Dracula, c'est un peu la même chose. Hein. Le personnage de Dracula, qui est dans le roman de Bram Stoker, c'est un conte. On dit que Dracula, il se serait inspiré d'un personnage qui était plutôt un prince de Valachie, sur lequel on va revenir parce qu'il y a une actualité qui tournait autour du prince Vlad, dit Dracula. Dracula, qui veut dire, si on le traduit du roumain en français, ça veut dire le fils du dragon. Hein, le dragon ou le diable. On aime bien dire le diable, mais en réalité, c'est plus proche du mot dragon. C'était un ordre, et le père de Dracul, de Vlad, était membre de l'ordre des dragons.
Okay.
Donc, et comme Vlad était le fils, ben, et en roumain, on ajoute un « la » à la fin du mot pour dire « le fils de ».
Okay.
Hein, comme en anglais, on va mettre un apostrophe « s » pour dire qu'il y a une appartenance. Là, tu sais, là,
et
Jones,
les Vikings, c'était « son ».
Ouais, c'est ça.
Ouais,
et donc, en anglais, on va dire « John's ». Son, c'est donc c'est okay. Le fils de John. En roumain, c'est rajouter un là. Donc Vlad Dracula, ça voulait dire Vlad, le fils du dragon. Et le dragon, c'était son père. Mais le mot Dracula, évidemment, ça sonne bien. Hein, surtout quand on le dit en roumain, je l'ai pas là. Mais moi, qui est allé à quelques reprises en Roumanie, là, quand je parle de Dracula, de la façon dont il prononce, tu sais, ça fait Dracula. C'est beau. Ça fait quasiment trembler. Et donc, il s'est inspiré de ce prince-là qui est un personnage tout à fait infâme de l'histoire. On va revenir sur le personnage. Mais lorsque le roman sort de Bram Stoker, on est dans cette Angleterre excessivement puritaine. Et là, on a un personnage qui représente un peu la noblesse, hein, c'est le comte Dracula. Et là, il va séduire des femmes, il les entraîne, évidemment, lorsqu'il les entraîne dans son château, tout ça, il y a un peu de l'érotisme autour de ça,
hein, oui.
L'érotisme à peine avoué. Et là, ça peut paraître un peu dur de dire ça, mais dans la réalité, les gens dans l'imaginaire, il y a deux fluides qui sont porteurs de vie, le sang et le sperme. Donc le fait que Dracula s'abreuve de sang, et un autre personnage aussi de l'histoire qui est associé au sang, c'est la comtesse Bathory, qui se baignait dans le sang. Ben évidemment, dans l'imaginaire collectif, c'est comme si on faisait une substitution. On utilise le mot sang parce que c'est plus propre de dire ça que le mot sperme. Mais
oui.
il y avait comme dans l'imaginaire, dans ce collectif-là, il y avait quelque chose de séduisant là-dedans. Et dans Dracula, ben évidemment, cet homme qui entre dans les chambres des femmes, c'est pas vraiment un viol, mais il y a comme une espèce d'agression qui se fait, une espèce d'agression volontaire entre la victime du comte et le comte lui-même qui veut s'abreuver du sang. Donc il y avait, on franchissait une forme de tabou érotique dans cette Angleterre encore qui vivait ses dernières années de cette grande période qu'on appelait l'époque victorienne avec ce puritanisme victorien. Donc c'est un peu ce qui a expliqué la grande popularité que jouait sur la popularité du roman de Bram Stoker et bien sûr le fait qu'il s'inspirait, semble-t-il, d'un personnage infâme. Mais à cette époque aussi, il faut se rappeler que c'est un beau mentir qui vient de loin et évidemment Bram Stoker racontait lorsque l'on parlait de quoi, il faut quand même le dire, hein, Bram Stoker n'a jamais lui personnellement dit je me suis inspiré du personnage de Vlad Dracul, tu comprends-tu, il a, dans son roman il dit pas ça, il prononce pas ça, mais en coulisses dans les cercles littéraires auxquels il appartenait et les discussions qui se faisaient en coulisses, évidemment ça circulait dans ce milieu-là. On pourrait dire, par exemple, lorsque le film L'Exorciste, hein, dont un autre exorciste va sortir d'ailleurs tout prochainement au cinéma, dans le film L'Exorciste, qui est sorti en 1973 au cinéma, on n'a pas présenté le film comme étant basé sur une histoire vraie. Mais en coulisses, tout le monde savait que lorsque Blatty avait écrit son roman, William Peter Blatty, qui est décédé assez récemment, avait écrit son roman de L'Exorciste, ben, il s'était inspiré d'une histoire que lui avait raconté des prêtres. Bon, il avait fréquenté l'université de Georgetown qui était principalement une église, une université sous contrôle jésuite, et c'est un prêtre jésuite qui avait raconté à Blatty que l'un de ses amis à lui avait participé à un exorcisme en 1949, et c'est un peu la trame de ça que Blatty va utiliser à la fois dans son roman et il va être aussi le scénariste du film. Donc, même si le film n'a pas été commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie et que cette histoire-là était celle de ce jeune Ronald Onkeller qui avait été soumis à un exorcisme en 1949, dans les coulisses, tout le monde le savait. C'est un peu la même chose. Lorsque Bram Stoker publie son roman, nulle part dans le roman, il nous rappelle cette histoire-là de Vlad Dracula en Roumanie. Mais dans les cercles littéraires, on le savait. Et à travers ce roman-là, donc, il franchit certains tabous qui est justement les tabous de l'érotisme et du romantisme. C'est un mélange entre les deux. Et d'autant plus que ce grand mouvement romantique était né en Angleterre à peu près 50-60 ans plus tôt, avec des auteurs comme... je pense notamment à Lord Byron, hein, à qui on va dire, ben, ce sont des grands auteurs de l'époque romantique gothique, hein, des gens comme justement le Lord Byron. Il y a Mary Shelley qui va publier aussi Frankenstein dans cette première moitié du 19e siècle. Donc c'est une période qui était très importante et on jouait sur des tabous qui était propre à une espèce de culture religieuse aussi, parce mm-hmm. que dans son roman Frankenstein, Mary Shelley, elle transgresse le tabou de Dieu qui donne la vie, hein, parce que son docteur Frankenstein va produire un être vivant, qui est réservé simplement à Dieu, hein, on peut pas créer des êtres vivants. Donc c'est cette idée-là de la science qui s'amuse un peu à jouer à Dieu, et c'est un peu le personnage de Victor Frankenstein, et dans le cas de Dracula, ben évidemment, Bram Stoker introduit cet aspect érotique avec ce conte Dracula. Et tout ça pour dire, donc, je me suis dit, je pense que ça se sent, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est
ben
une
oui.
culture du vampire que j'aime beaucoup, parce qu'il y a toutes sortes de ramifications qui nous ramènent jusque dans l'Antiquité, parce que le mythe du vampire, il est tout à fait, il est quand même très ancien, et c'est un peu ce qui nous amène à la première partie de cette émission. C'est une nouvelle qui est parue il y a quelques jours et je trouve ça tout à fait étonnant parce que ça vient un peu mettre ébranler la vision que l'on avait de cette culture du vampire dans l'Europe de l'Est. Il faut savoir que l'idée du vampire telle qu'on se le fait, et je l'ai mentionné, hein, ça a été beaucoup amené par le roman de Dracula de Bram Stoker, c'est une culture du vampire qui est née et qui s'est surtout propagée dans l'Europe de l'Est à partir du 18e siècle. Donc, il y a quelque part là, l'idée de ces personnages morts-vivants qui sortent de leur tombe pour venir s'abreuver du sang des vivants. C'est quelque chose qui est... Le principe lui-même, il est très ancien, mais la vision plus raffinée que l'on a du vampire... Elle va apparaître surtout au 18e siècle et elle va être peaufinée au 19e par des romans comme Dracula. La vision que l'on avait, évidemment, c'était souvent lié à ou bien des éléments d'ordre sociologique ou des événements qui étaient plus, disons, médicaux. Okay. Quand je dis sociologique, dans le sens que lorsqu'il y a eu des grandes épidémies, ben, on avait une vision très manichéenne du monde. Hein, si c'est bien, c'est Dieu. Puis si c'est mauvais, c'est le diable.
Hein, ouais, donc, ouais.
C'est ce qui a un peu alimenté les chasses aux sorcières
si
à la Renaissance.
Si tu survis, c'est parce que Dieu t'a sauvé. Là.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours un peu cette vision-là. Et lorsqu'est arrivée les grandes périodes de peste, tout ça... de grandes maladies, des épidémies, on enterrait les gens, et en particulier dans le cas de la peste, hein, lorsque on enterrait les gens dans des charniers rapidement pour éviter que la contagion se multiplie, mais dans certains cas, les gens étaient pas morts. Ils étaient malades, puis ils tombaient comme dans une espèce de coma. On les plaçait dans des tombes, puis on les enterrait rapidement. Et souvent, lorsque l'on a déplacé des tombes, on a constaté que des gens s'étaient retournés. C'était des cercueils, souvent des cercueils qui étaient faits de manière très artisanale. Quatre planches, on mettait le corps dedans, puis on l'enterrait. Et quand on a déplacé ces cercueils-là, évidemment, avec le temps, le bois avait pourri. Et en ouvrant, en essayant de déplacer le cercueil se brisait. Et on voyait que la personne à l'intérieur avait bougé ou avait essayé même de graffiner l'intérieur du cercueil. Donc, on se disait, ouais, il s'est réveillé d'entre les morts.
Il était pas mort.
Oh, mais God. Ça donnait cette idée-là parce qu'on devait agir avec énormément de rapidité pour éviter que l'épidémie se répande. Et d'un autre côté, dans certains cas, notamment dans des cas de maladie de la peste, les gens, lorsqu'ils mouraient, il y avait une dégradation des tissus à l'intérieur et il y avait les substances. Là, je sais que les gens viennent de souper, donc on n'entrera pas trop dans le détail, mais effectivement, le fait que les chairs à l'intérieur, à cause de la maladie, les chairs à l'intérieur se défaisaient, les bactéries faisaient que lorsqu'on déplaçait les corps, parfois il y avait du liquide biologique qui s'écoulait de la bouche et auquel s'était mêlé du sang. Donc, quand on déplaçait le corps, on voyait soudainement s'écouler de la bouche des cadavres une substance visqueuse, rosée, que l'on associait au sang. Et ça menait les gens à penser que peut-être que cette personne-là est sortie la nuit, est allée boire du sang, puis c'est pour ça qu'on voit ce sang qui s'écoule de sa bouche, même après des jours enterré ou placé dans un charnier.
On n'avait pas la science d'aujourd'hui.
Hein, non, donc il y avait tous ces éléments. Ouais, donc il y avait tous ces éléments-là qui ont ajouté évidemment à cette culture. Il y avait également des éléments, un élément d'ordre psychologique qui est une psychose qu'aujourd'hui les médecins appellent le syndrome de Renfield. Le syndrome de Renfield, ce sont des gens qui dans un espèce de délire croient qu'ils ont besoin de boire du sang pour survivre. Donc, ils peuvent aller jusqu'au meurtre. Hein. Il y a un cas, notamment aux États-Unis, Monsieur Chase, qui commettait des crimes, tuait des gens, buvait leur sang, parce qu'il était convaincu que s'il buvait pas leur sang, ben évidemment, son lui-même, de l'intérieur, était en train de pourrir. Donc, tant et si bien qu'il a commis des crimes en fonction de cette vision occulte qu'il avait. Donc, ce syndrome de Renfield, il est pas nouveau. Et d'ailleurs, on lui donne le nom de syndrome de Renfield parce que dans le roman de Dracula, il y a un personnage qui voue un peu un culte au comte Dracula et qui est obsédé par l'idée du sang, qui est le docteur Renfield. Donc, on a pris son nom et on a aujourd'hui qualifié cette maladie de syndrome de Renfield.
Okay.
On comprend que c'est un délire psychologique. Ce sont des gens qui, à un moment donné, pour des raisons, dans une forme de psychose, se disent, il faut que je m'abreuve de sang, puis ça peut aller jusqu'au meurtre. Dans le cas de... Il y a une autre maladie aussi qui est souvent associée aux vampires, qu'on appelle d'ailleurs la maladie du vampire, qui est une maladie qui s'appelle la porphyrie de Gunther, qui est un problème sanguin, là, c'est la quantité de fer dans le sang, là. Et les gens qui souffrent de cette carence, et qui sont atteints donc de cette maladie, qui est la maladie de Gunther, deviennent excessivement sensibles à la lumière. La peau devient excessivement blafarde. Parfois, elle va sécher, se fendiller. Et les gencives, par exemple, vont régresser.
C'est
comme un assèchement des gencives. Et là, évidemment, les dents et les canines paraissent beaucoup plus prééminentes. Et ces gens-là ne sortent que la nuit puisqu'ils sont photosensibles, sont excessivement réceptifs à la lumière, deviennent très inconfortables devant la lumière. Donc, tant et si bien que ce sont des créatures de la nuit dont l'aspect peut être assez inquiétant. Donc, la maladie de Gunther, maladie dite du vampire, ben évidemment, a contribué à alimenter tout ça. Mais la vision que l'on a, cette vision du vampire, comme je l'ai mentionné, c'est une vision qui s'est beaucoup imposée à partir du 19e siècle. Mais il faut savoir que cette idée-là de créatures qui vont revenir d'entre les morts pour s'en prendre aux vivants, mais non, mais de manière physique, on parle pas de fantômes, on parle réellement de manière physique, qu'on les appelle les vampires, qu'on les appelle les ghouls, il y avait toutes sortes de noms qu'on leur donnait. Ça, c'est une croyance qui est très ancienne, qui remonte à l'Antiquité. Et particulièrement en Europe de l'Est, cette croyance-là, qui va éventuellement se peaufiner, se raffiner sous forme du vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui, cette croyance-là, elle est très répandue, elle s'est répandue à travers toute l'Europe de l'Est. Déjà au milieu du Moyen-Âge, on trouvait dans plein de villages, tout ça, des mythes entourant les ghouls et des créatures de la nuit, genre zombies qui sortaient de leur tombe pour s'en prendre aux vivants. Et ce qui m'amène à cette nouvelle qui est parue il y a quelques jours, il s'agit d'une recherche qui est menée par des scientifiques de l'université Nicolas Copernic de Toruń en Pologne. Et ces gens-là travaillent dans un petit village qui s'appelle le village de Pien. On est au nord de Bodzisgosk, hein, c'est dans le nord-est de la Pologne. Et ils ont mis à jour, il y a à peu près un an et demi maintenant, un cimetière qui est en terre non consacrée. Parce que les cimetières en terre non consacrée, c'était des cimetières qui permettaient d'accueillir ou bien des gens qui étaient considérés dans la société comme des parias. Donc, on les enterrait en terre non consacrée. On enterrait également les gens qui, pour d'autres raisons, inquiétaient les populations. Là, souvent, les malades mentaux, les gens atteints de syndromes particuliers qu'on comprenait pas trop, l'épilepsie qui était souvent associée au diable, la maladie de la Tourette.
Okay.
Donc, ces gens-là, qu'on se disait un peu étranges, hein, on sait pas ce que c'est le syndrome de la Tourette. Évidemment, ça peut paraître étrange un peu pour des gens. Mon Dieu, t'as ça. Et c'est un peu la même chose pour les crises d'épilepsie, hein, et en particulier les crises d'épilepsie dites grand mal, où l'individu tombe sur le sol et le corps va se arquer de manière très très prononcée. Et donc, ces gens-là faisaient peur aux populations. Donc, les cimetières en terre non consacrée, c'était les parias. Ces gens-là, un peu inquiétants. Et aussi, il y avait des gens pauvres. Parce que les cimetières, une inhumation dans un cimetière dit catholique ou un cimetière chrétien, ben ça coûtait des sous, hein. Puis en fait, ce qui coûtait des sous, c'était pas tant l'inhumation que la messe. Il fallait dire une messe. Et la messe, l'inhumation, c'est comme si l'inhumation coûtait rien, mais la messe qui accompagne l'inhumation, elle coûte de l'argent. Donc, comme on n'avait pas les moyens de se payer des messes, ben évidemment, on enterrait ces gens-là en terre non consacrée. Ça évitait de dire une messe. Donc, ces gens-là, donc les chercheurs de l'université Nicolas Copernic ont mis à jour, il y a à peu près un an et demi, presque deux ans maintenant, ce cimetière. Et en creusant, une année maintenant, ils ont déterré le corps d'une femme, et ça a été spectaculaire. Les images sont d'ailleurs assez troublantes. Une femme dont les mollets avaient été aux chevilles, elle avait un gros cadenas autour des chevilles, et elle avait été inhumée sur le dos avec une lame de faucille placée au-dessus de la gorge.
Hein?
Ce qui veut donc dire, ah ouais, écoute, c'est assez incroyable. Et pourquoi? Ben, parce que visiblement, les gens, la population locale, craignait que cette personne-là puisse ressortir de son cercueil pour venir s'en prendre aux vivants. Donc c'est l'idée du vampire. Pas tout à fait encore l'idée raffinée du vampire telle qu'on l'imagine là, avec Dracula, mais c'est déjà une forme de ghoul qui se rapproche de l'idée du vampire. Donc, on y a mis une lame autour du cou, puis on s'est dit, si ça sort de sa tombe, schlac, elle va se trancher la tête, donc on est assuré qu'elle ne reviendra pas d'entre les morts. Et là, voilà qu'il y a quelques jours, les mêmes chercheurs, en fouillant dans une eau, tout près d'ailleurs de cette tombe de cette dame qui a été découverte l'année dernière, on a trouvé la tombe d'un enfant qui est âgé entre 5 et 7 ans, qui ne présente, pour l'instant, on n'a pas pu déterminer le sexe. L'enfant en question ne présente aucune malformation. On a le squelette, là, on comprend bien, mais en fonction du squelette, on ne voit pas de malformation qui permettrait de croire qu'il est décédé de maladie ou qui pourrait nous indiquer de quelle maladie il est mort. Il ne présente pas non plus de marques de violence corporelle. Il n'y a pas le crâne défoncé, il n'y a pas d'os brisé, rien. Mais il a été inhumé dans une tombe pas très loin de cette dame là, avec la faucille et la lame de faucille autour du cou, et il a été enterré avec lui aussi un gros cadenas autour des chevilles pour s'assurer qu'il ne revienne pas d'entre les morts. Et ça, c'est une première. On avait une vision de ce que les gens, la peur des ghouls et des vampires, mais disons vampires façon primitive, là, qui s'étaient répandus dans l'Europe de l'Est à cette époque, la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. Mais cette idée que des enfants pouvaient eux aussi revenir d'entre les morts, ça jusqu'à maintenant, on n'avait pas cet élément-là, on n'avait rien trouvé de ça. C'est pas la première fois que on trouve dans des tombes à travers l'Europe. On en a trouvé principalement en Europe de l'Est, mais je me rappelle, il y a quelques années, on en a trouvé aussi à Vienne des gens qui avaient été inhumés ou bien ils avaient été cloués dans leur cercueil, ou dans d'autres cas, on leur avait placé une pierre ou une brique dans la bouche pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas d'entre les morts.
C'est rare, pareil. Oh.
Mais ça ne concernait que des adultes. Et là, pour la première fois, on a le corps d'un enfant. Parce qu'il faut savoir que dans cette culture-là, même au Moyen Âge et à la Renaissance, l'idée que les enfants qui mouraient en bas âge ne devenaient pas fondamentalement des ghouls. Ils pouvaient se manifester d'entre les morts, mais toujours sous forme de fantômes. Et pourquoi? Ben parce que évidemment, un enfant qui mourait en bas âge, d'autant plus s'il mourait à la naissance, et l'Église catholique, l'institution avait créé quelque chose pour eux, elle avait créé les limbes. Donc, si l'enfant naissait, était mort-né, il tombait dans les limbes puisqu'il n'était pas baptisé. Donc, il fallait être baptisé pour pouvoir passer au paradis. Ouais. Et là, encore là, il y avait une espèce de gimmick de l'Église catholique, c'est de dire, s'il est mort-né, il va se trouver dans les limbes pour l'éternité. Mais on peut en quelque sorte payer une caution, et la caution, c'est le baptême. Donc, on pourrait faire un baptême post-mortem, mais évidemment, le baptême ne coûtait rien, mais ça coûtait des sous pour faire dire une messe qui accompagnait le baptême. Donc, tu comprends que les gens pauvres, malheureusement pour eux, si des enfants étaient morts-nés, leur vision, c'était que leur enfant allait vivre pour l'éternité dans les limbes, puis les familles les plus riches payaient une messe pour faire de manière post-mortem un baptême pour leur enfant pour qu'il puisse aller au paradis. Mais les enfants qui mouraient en bas âge, comme c'est le cas présent, puisque notre enfant a entre 5 et 7 ans, l'idée était que s'il avait baptisé et elle avait été baptisée, évidemment, ils sont allés au paradis, mais on acceptait l'idée que comme il avait une vie incomplète, il pouvait revenir sous forme de fantôme pour demander un peu plus de vie, pour demander plus d'amour encore qu'il en avait eu. Donc, il y avait une espèce de vision très, très presque poétique autour de l'idée de l'enfant fantôme. Et là, on n'est pas dans cet univers-là, on est dans l'univers clairement du vampire, du ghoul qui revient d'entre les morts.
Et c'est vrai que dans la culture populaire, Christian, là, le mythe du vampire, c'est qui est éternel, qui a des centaines d'années, s'il y a des enfants dans la famille de vampires, ils vont grandir, eux autres, mais pas les adultes.
Non,
eux autres,
c'est
ils arrêtent à un moment donné, on dirait que l'âge fige.
C'est exactement. Et donc, c'est un peu comme si on n'avait pas prévu le coup. Après tout, on a créé le mythe du vampire, mais on n'a pas pensé à l'enfant vampire. Donc, ça surprend. Ce corps-là, comme je l'ai mentionné, là, on n'a plus déterminé son âge. Là, on est dans un cimetière qui remonte au 17e siècle, donc il a à peu près 400 ans. Encore une fois, au 17e siècle, il y a dans l'Europe de l'Est, dont la Pologne fait partie, mais tous les pays limitrophes aussi, la Roumanie, l'ancienne Tchécoslovaquie, tout ça, c'était des pays qui étaient limites et où cette culture-là s'est développée. Mais encore une fois, l'idée d'un enfant vampire, ça, on n'avait pas vraiment cette vision-là. Et au moment où on se parle, là, je sais que les chercheurs ont mentionné qu'ils avaient fait des prélèvements ADN puisque le corps de cet enfant a été trouvé à proximité du corps de cette dame qui a été trouvée l'an dernier. On s'est posé la question, puis c'est tout à fait légitime, est-ce qu'il y aurait un lien entre cette femme que l'on croyait clairement être un vampire, en considérant les conditions, le culte d'inhumation, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre elle et l'enfant, un peu comme une sorte de malédiction qui aurait frappé à la fois la mère et l'enfant. Donc on a fait des prélèvements d'ADN sur la mère, sur la femme, et sur l'enfant pour voir s'il y a un lien mère-enfant, et si oui, ça nous montrerait que dans cette culture-là, l'idée du vampire pouvait être transmise d'une génération à une autre.
Okay.
Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ça reste quand même très étonnant. C'est la première fois, non seulement dans l'Europe de l'Est, qu'on trouve une tombe d'un enfant que l'on croit être un vampire, mais c'est la première fois même au monde qu'on trouve une telle tombe. Donc, c'est vraiment une première dans l'histoire de ce culte du vampire qui s'est développé à travers de l'Europe de l'Est, où là, on le voit sous toutes ses formes et sur une vision plus infantile qu'on l'imaginait pas, puisque ça, les vampires ne semblaient toucher que les adultes.
Par maladie, par... le mythe du vampire, à la base, arrive quand?
En fait, l'idée que des créatures de la nuit sortent de leur tombe pour aller s'en prendre aux vivants, on retrouve ça même dans la Rome et la Grèce antique.
Okay.
Donc, il y a toutes sortes de créatures la nuit qui vont venir s'en prendre aux humains. Et ces cultes, ces croyances-là, elles sont nées, comme je l'ai mentionné, soit de maladies qui étaient bien physiques, de dérives ou de psychoses d'individus, puis aussi, bien sûr, le fait que le sang, c'est un symbole qui est fort. Hein, l'idée que des créatures viennent pour consommer ton sang,
mm-hmm.
ben, le sang, c'est la force vitale. Donc, il y a toute une croyance autour de ça. Et c'est aussi un peu la même... On retrouve les mêmes croyances de façon un peu transformée, mais dans le culte des sacrifices humains. Hein,
oui.
Le sang, encore une fois, on fait le sacrifice parce que le sang, encore une fois, c'est un liquide noble. C'est un liquide porteur de vie. Et dans certains cas, même lorsqu'il y avait des sacrifices humains, on consommait une partie des chairs des sacrifiés, principalement le cœur, parce qu'on croyait que dans le cœur résidait la force de l'individu, qui plus est d'un guerrier lorsqu'il s'agissait de guerre tribale. Puis on mangeait le cœur de notre adversaire pour pouvoir acquérir sa force physique. Donc on voit que peu importe où ça se passait dans le monde, ce culte du sang, il est là, il a été omniprésent et il a pris toutes sortes de formes, et principalement dans les pays d'Europe de l'Est, sous la forme de ghouls et de vampires.
Donc le vampire a vécu une vie, en est décédé et revient des morts de façon éternelle en se nourrissant de sang.
Oui, puis t'as raison aussi de bien mentionner le mot éternel, parce que dans le culte du vampire, il y a aussi un culte qui est propre à toute l'humanité. C'est le culte à la fois de la beauté, de la jouvence et de la vie éternelle.
Et voilà.
Il y a ce rêve-là de la vie éternelle. Et lui, le vampire, ne meurt pas. Hein. Il est éternel. Il survit à la mort et il va traverser les siècles. Et généralement, dans les histoires de vampires, les visions qu'on en a dans la culture, le vampire ne vieillit pas non plus. Il reste, comme tu l'as mentionné, le temps pour lui s'est arrêté. Donc, il est décédé à 40 ans. Ben, tout le restant de sa vie, il va être stoppé à l'âge de 40 ans, dans la mesure où il va s'adonner aux rituels qui sont propres à son état. Donc, il va, en se nourrissant de sang, etc., en ne sortant que la nuit, ben, il est assuré d'une vie éternelle. Ben, tout ça pour dire que cette vision-là vient un peu là, mettre à mal les croyances que l'on avait sur la vision des vampires qui s'est répandue en Europe, mm-hmm. au Moyen-Âge et à la Renaissance, en voyant que on voit que même dans ces croyances-là, les enfants pouvaient aussi être taxés d'être des vampires. Et là, ben, on a sous les yeux une démonstration tout à fait éloquente par la tombe de cet enfant qui a été découverte.
Ça m'amène à poser la question que tu as mis sur notre plan de l'émission. Si on a un vampire qui se nourrit uniquement que de sang, quelle est sa composition interne? Il est-il encore constitué de 70% d'eau ou il peut verser des larmes de sang? Est-ce que Dracula faisait
voilà.
ça, en fait, c'est
et,
ta question?
Et là, c'est notre deuxième nouvelle du jour qui a beaucoup alimenté la presse. J'ai vu plein de trucs passer autour de ça. On a parlé en début d'émission de ce personnage de Vlad Dracula qui aurait inspiré, disons-le au conditionnel, qui aurait inspiré Bram Stoker pour son roman du comte Dracula. En fait, c'est plus qu'une inspiration. Le nom y est, hein, Dracula, et son comte Dracula vit en Roumanie, dans les Carpates, en Transylvanie. Et c'est exactement là que nous ramène l'histoire de ce personnage de Vlad, hein, qui a vécu. Bon, on sait qu'il est né aux alentours de 1429, mais les historiens sont incertains de la date de naissance. C'est quelque part entre 1429 puis 1435 à peu près.
Okay.
On est certain toutefois qu'il est décédé en 1476 durant une guerre qui opposait la Roumanie, en fait la Transylvanie, une paroisse de la Transylvanie qui s'appelle la Valachie, qui opposait aux Turcs ottomans. Et il a fini sous l'épée d'un ottoman qui lui a tranché la tête. Donc là, on est sûr, pour la date de la mort, c'est 1476. Donc c'est un personnage c'est assez amusant, parce qu'il faut que je te mentionne ça. Moi qui y suis allé, tu sais, nous, quand on parle de Dracula, c'est le personnage, le vampire, le monstre, etc. Mais quand on visite la Roumanie...
Oh, wow!
le personnage de Dracula, c'est un héros national. Donc, eux, c'est un peu étrange parce que avant qu'il y ait cette ouverture de l'Europe de l'Est sur le monde occidental, là, avec tous les bouleversements, la fin de l'URSS, l'éclatement des pays du bloc communiste, ben, évidemment, ces gens-là avaient pas vraiment une grande ouverture sur le monde occidental. Donc, eux avaient pas cette vision que nous, on avait fait de ce personnage de Dracula. Et quand tout ça commençait à se produire, ils ont été un peu surpris de voir que leur héros national avait été transformé en un personnage infâme et maudit. Puis quand je dis héros national, encore là, il faut quand même tempérer, parce que pour eux, pour les gens qui vivent en Transylvanie, la Transylvanie, c'est une région aujourd'hui de la Roumanie, mm-hmm. avec différentes provinces, et l'une de ces provinces était la Valachie, sur laquelle a régné ce personnage de Vlad Dracula. De son véritable nom, c'est Vlad Bazarab III. Et la façon dont les roues... Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, ce personnage-là, qui était un personnage monstrueux et infâme, entendons-nous, mais il a quand même sauvé le pays de l'invasion des Ottomans. Donc, il a évité que le pays tombe dans l'islam.
Ah.
À l'époque, le pays était catholique. Hein? Bon, orthodoxe, il y avait surtout des orthodoxes. Et à ce moment-là, donc, il y avait, à la frontière de la Roumanie, il y avait cette avancée des Turcs ottomans, donc d'obédience musulmane, qui voulait envahir le pays. Et Vlad s'est affronté à ces gens-là. C'est assez amusant parce qu'il a été détenu, hein, son père, lorsque son père était vivant. Lui, Vlad et son frère Radu ont été donnés en monnaie d'échange, ont été prêtés, si je peux dire, entre guillemets, en monnaie d'échange aux Turcs.
Mmh.
Fait que tant et aussi longtemps que les enfants de Vlad... Le père, hein, Vlad Dracul, était détenu par les Ottomans. Il y avait une paix. Autrement dit, les Ottomans disaient « On va faire commerce avec vous, nous on va vous nous respectez, puis le jour où ces ententes-là vont se être terminées, on va exécuter les enfants, tu comprends ?» Donc, Vlad Dracul se montrait plutôt tolérant avec la présence de ces Turcs ottomans aux frontières de la Roumanie. Après le décès du père, Vlad Dracul, le petit Vlad a été envoyé pour... Tu t'imagines The Game of Thrones, là? Ben, imagine-toi, ouais. The Game of Thrones, multiplie ça par 10, hein. Le nombre de gens qui voulaient s'asseoir sur le trône de Valachie, c'était épouvantable. On s'empoisonnait. Il y avait les boyards, qui étaient les gens riches du pays, qui ont probablement concocté pour faire assassiner le père de Vlad. Et c'était épouvantable.
C'est vrai, comme ça en Europe de l'Est, hein.
Oui, assez, hein. Il y a comme cette vicissitude.
Il y a un peu
pattern, ce chaos.
Ouais.
Oui, il y a un chaos. Et là, donc, les Ottomans ont dit, on va mettre quelqu'un qui est à notre botte, hein, qui est Vlad, on va le mettre sur le trône. Mais Vlad avait énormément de ressenti envers les Ottomans qu'il avait gardé prisonnier pendant pratiquement 20 ans. Donc, évidemment, quand il a pris le trône, lui, il a déchiré les accords qu'il avait avec, que son père avait signé. Et il a été d'une opposition farouche contre ces Turcs ottomans qui étaient littéralement campés aux frontières de la Roumanie. Et donc, il s'est opposé à eux. Et ce qui va valoir, il va d'ailleurs, quand je te disais de Game of Thrones, il faut savoir qu'à trois reprises, il va monter sur le trône. Il va monter sur le trône, il va être destitué dans des guerres familiales. Même à un moment donné, c'est son frère Radu qui va réussir à prendre le pouvoir, va jeter son frère en prison, mais Vlad va s'évader et réussir à reprendre le trône. Donc, c'est vraiment des épisodes de The Game of Thrones.
C'est héroïque, son affaire. Oui. Moi, je comprends.
Et à un moment donné, on est aux alentours de 1460 à peu près, il va y avoir l'événement qui va faire que Vlad va devenir ce fameux héros national, mais en même temps, un personnage, une monstruosité énorme. Déjà, on lui reprochait plusieurs... disons plusieurs situations où il avait été excessivement extrémiste. À un moment donné, un émissaire, l'histoire se rappelle qu'un émissaire des Ottomans s'était rendu pour essayer de créer une entente entre la Valachie, la Transylvanie et les Ottomans. Et lorsque ce personnage est arrivé devant Vlad... Vlad lui a dit, écoute, moi, je suis le souverain, hein, je suis le prince de Valachie, donc tu dois te décoiffer. Donc, on le sait, hein, l'importance du turban, c'est chez les musulmans, donc l'émissaire a refusé. Fait que Vlad lui a dit, parfait, tu veux pas l'enlever ton turban, tu vas le garder. Fait qu'il a fait prendre l'individu, il l'a fait jeter au cachot, et il a demandé à l'un de ses sbires de littéralement clouer le turban sur la tête de l'émissaire.
Ouch.
Et une fois que le turban a été cloué, il l'a renvoyé chez les Turcs ottomans avec un message. Donc, tu vois, c'était plutôt excessif. À un autre moment donné, un des conseillers de Vlad lui dit, voilà, parce que, bon, l'une des villes, aujourd'hui, quand on visite la Roumanie, puis écoute, je parle à une guide de voyage, une organisatrice de voyage. Quand on visite cette région-là de la Roumanie, il y a deux châteaux qui sont très importants.
Okay.
En fait, il y en a trois, dont l'un est un fake. Tout le monde vont, les gens qui vont en Roumanie vont visiter le château Brand, que l'on dit, qui porte le nom de château de Dracula, mais en réalité, Dracula n'a jamais vécu là.
La fausse représentation.
Absolument. En fait, il a été simplement, lorsque son frère, Radu, a pris le pouvoir, Radu l'a mis au cachot et pendant quelques mois, il a été détenu au château Brand. Vlad a été détenu au château Brand, dans les geôles du château Brand. Mais ça n'a jamais été un des châteaux de Dracula. Ces deux principaux châteaux existent encore aujourd'hui, okay, en état de ruine, littéralement. Il y en a un qui se trouve dans une ville qui s'appelle Târgoviște et un autre est au sommet d'une crête rocheuse à Poinerii. D'ailleurs, s'il y a des gens qui vont là et décident de visiter le château de Poinerii, il faut une bonne santé, hein, parce que quelque chose comme 1000 marches, okay, à monter avant d'arriver au château.
Et quand même.
Quand t'arrives là, t'es un peu essoufflé, là. Bon. Donc, c'est des châteaux qui existent encore. Donc, à un moment donné, alors qu'il était à Târgoviște, l'un de ses conseillers dit à Vlad, il dit, ouais, mais là, on a un peu des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'itinérants dans les rues de la ville, tout ça. Parce qu'évidemment, comme la plupart des souverains de cette époque, ce qui comptait en premier, c'était l'aisance du prince sur le trône et le peuple, ben, tu sais, c'était un peu secondaire. Donc, évidemment, les gens étaient pauvres, les récoltes allaient pas bien, il y a eu des périodes de sécheresse ou des périodes de froid, de gel, peu importe. Et là, à un moment donné, ça multipliait les pauvres et les itinérants. Donc, un des conseillers de Vlad dit, voilà, il y en a beaucoup d'itinérants de Târgoviște. Et Vlad dit, bon, ben parfait, il dit, ces gens-là, j'imagine que ces gens-là doivent avoir faim, alors pour ces gens-là, faisons un banquet. Donc, il a réuni à peu près tous les pauvres de la ville dans son château. Donc, il a fait un énorme banquet dans une des cours du château. Et donc, pendant que les gens étaient là à se restaurer, il a fait fermer les portes cochères qui permettaient de sortir de cette grande place, et il a fait mettre le feu.
Oh.
Les gens sont morts brûlés vifs. Et là, il a dit à ses conseillers, ben voilà, il n'y a plus de pauvres à Târgoviște.
Oh mon Dieu, tout ça partait d'une bonne intention. Je suis comme troublée, là.
Donc, tu vois un peu le personnage. Et ce qui va lui valoir, ce qui va faire, qui va passer dans l'histoire, c'est, ça peut paraître curieux, mais c'est à l'époque, on est au tout début de l'imprimerie, hein.
Oui.
On est passé du manuscrit aux premiers imprimés, ce qu'on va appeler les incunables. Et dans ces incunables, on va retrouver un imprimé de Vlad où on le voit, tu l'as peut-être vu. Il est assis avec une table en train de festoyer. Hein, il mange, il a comme une cuisse de poulet dans la main, là, quelque chose comme ça. Et autour de lui, on voit plein de gens qui sont littéralement empalés. Et cette image-là qui va circuler à travers toute l'Europe, c'est un peu comme un signal en disant « Regardez ce personnage-là, comment il est monstrueux. » Et elle découle d'un événement historique, hein, qui est irréfutable. À un moment donné, lorsque les Turcs ottomans se sont préparés à attaquer, on est en 1462, ils se préparent à attaquer Vlad. Et là, Vlad fait déplacer toutes les troupes, ses troupes militaires sur le flanc est de la Transylvanie. Et à ce moment-là, alors que les troupes sont en déplacement, l'un de ses conseillers lui dit « On a été trompés. Les Ottomans vont nous attaquer à l'ouest. » Et là, Vlad, et c'est en même temps, c'est ce qui va faire de lui le héros national, voyant qu'il était impossible pour lui de ramener les troupes à temps pour pouvoir défendre le flanc ouest, il a demandé à ses conseillers, il dit « Combien avons-nous de prisonniers ottomans dans les prisons de Transylvanie ?» Et on lui a dit « 10 000 ». « Ben parfait, on va les empaler. » Il a empalé les 10 000 prisonniers turcs ottomans sur la frontière ouest de la Transylvanie. Donc, quand les Ottomans ont franchi la frontière, ils se sont retrouvés dans ce qu'on a appelé la frontière, la forêt des empalés.
Hein?
Le spectacle était si monstrueux que les Ottomans ont viré de bord. Et pour Vlad, ça a fait de lui le héros national. Il avait ainsi sauvé la Transylvanie de tomber aux mains des Turcs ottomans et ainsi éviter que la Transylvanie devienne islamiste. Alors, c'est un grand moment.
C'est une drôle façon de faire.
Ouais, mais c'est ça. C'est un personnage comme il y en a peu dans l'histoire. Hein,
c'est
des personnages monstrueux et qui fascinent. La monstruosité du personnage nous fascine, comme va l'être 200 ans plus tard la comtesse Elizabeth Báthory, qui on a supposé qui se baignait dans le sang et qui assassinait des vierges dans ses châteaux pour garder sa jouvence. Donc, c'est des personnages où le mythe devient plus grand que le personnage. Et encore une fois, on voit l'attraction que ce Vlad Dracula exerce sur l'imaginaire collectif. Et là, bien sûr, il a été consacré avec le roman de Bram Stoker, Dracula. Mais encore récemment, on a appris, là, il y a quelques jours à peine, c'est une étude qui a été publiée dans un magazine scientifique qui s'appelle le Analytical Chemistry. Ça a été publié le 8 août dernier. Ce sont donc des scientifiques de l'université Catane en Italie qui ont retrouvé trois lettres qui ont été écrites de la main de Vlad. Et donc, en regardant l'écriture, tout ça, ils ont fait ce qu'on appelle, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de résumer ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'ADN environnemental. Donc, okay. On a pris le papier, on sait que c'est Vlad qui l'a écrit de sa propre main. Donc, on s'imagine qu'il a appuyé sa main sur le papier, donc on a retrouvé des échantillons de graisse, des éléments de peau, de sébum. Donc, tu vois, comme il a tenu ce document-là entre les mains, on sait que l'ADN humain majoritaire qu'on doit retrouver sur la lettre est très certainement celui de Vlad. Il est possible qu'il ait donné la lettre ensuite à un émissaire pour qu'il aille la porter quelque part, mais grosso modo, ce qu'on va retrouver d'ADN humain sur le papier, ben c'est certainement celui de Vlad. On voit également, et à travers ça même, cet environnement du papier, on peut déterminer quelles étaient les conditions dans lesquelles il a écrit ses lettres. Est-ce qu'il était éclairé avec une chandelle? Est-ce qu'il y avait de la suie dans l'air? Tu sais, il y a toutes sortes d'éléments. C'est incroyable ce que l'on peut faire aujourd'hui. On peut littéralement recréer l'environnement dans lequel, il y a 600 ans, Vlad s'est assis et a écrit ses fameuses lettres.
C'est la reconstitution même, tu sais, d'environnement autour, là. On peut y réimaginer la pièce, puis quasiment la reconstruire.
Absolument,
c'est
absolument. Et c'est ça. Et ce qu'ils ont découvert là-dedans, c'est assez compliqué, là. Peut-être après l'émission, je mettrai s'il y a des gens qui veulent télécharger, parce que ça a donné un très bel article qui fait 13 pages, dans lequel on explique le procédé et puis tout ça, qui a été publié dans comme je l'ai mentionné, là, dans cette publication, le Analytical Chemistry, qui est un magazine anglais scientifique. Et à travers tout ça, je mettrai peut-être l'adresse pour les gens puissent télécharger le dossier PDF, là, ceux qui voudraient en prendre connaissance.
Ben oui.
Mais tout ça pour dire qu'à travers ça, ils ont pu déterminer que plus à travers le sébum, la sueur et tout ça, ce qu'ils ont pu retrouver sur le papier, ils ont pu déterminer que le personnage de Vlad était un personnage qui était plutôt en mauvaise santé. Hein. Il y a plusieurs marqueurs qu'ils ont trouvés qui sont dans les protéines, dans un type de protéines qu'on appelle les peptides qui sont liés à des...
Ouais.
À les... Là, on a pu déterminer un peu l'état de santé. On sait qu'il, visiblement, Vlad avait en mauvaise santé. Il avait visiblement des problèmes respiratoires. Et l'une des choses les plus surprenantes, c'est qu'on a pu déterminer à travers ça qu'il souffrait probablement d'une maladie assez étrange qui fait que il devait pleurer des larmes de sang. Donc,
okay.
On appelle ça de hémolacrie. Hein, c'est le nom de maladie. D'ailleurs, l'hémolacrie, je me rappelle à un moment donné, il y a une histoire que j'avais parlé d'un cas de possession diabolique sur lequel on pourra éventuellement revenir. Mais c'est un cas d'un type qui s'appelle Maurice Thériault, un Québécois qui est né à Sainte-Adèle au Québec, qui est allé vivre au Massachusetts et dans le Maine et au Massachusetts, et éventuellement on le dit que les Warren, dont j'ai souvent parlé,
oui.
On dit qu'ils étaient possédés par le démon, qui pleuraient des larmes de sang, mais jamais dans leur compte-rendu, ils ont évoqué l'effet qu'il y a quand même une maladie qui s'appelle l'hémolacrie, qui fait que des gens peuvent pleurer des larmes de sang.
Et puis ce que je vois là, Christian, c'est que ça arrive des épisodes de larmoiement. Une à trois fois par semaine.
Voilà, c'est
de
ça. Quand ces larmes se forment, hein, ce sont des larmes qui coulent de manière involontaire. Donc c'est pas parce que t'es triste puis tu te mets à pleurer puis tu vas pleurer des larmes de sang. Non, soudainement les yeux se mettent à sécréter des larmes, un peu comme tu sais, par exemple les yeux vont te couler puis tu vas dire tabarnouche, c'est mes allergies, hein, je viens les yeux puis je pleure, mais ça c'est les ou quand tu tu coupes un oignon, hein, ça, on se met à pleurer, puis bon, c'est pas parce qu'on a de la peine, mais c'est l'environnement qui fait que ça fait ça. Dans le cas de l'Émo-Lacry, c'est un peu la même chose, donc on va se mettre à pleurer des larmes de manière involontaire, et ce sont des larmes de sang. Ben, on a trouvé des résidus de ça sur le papier écrit, sur les lettres écrites par Vlad. Ce qui laisse supposer qu'au moment où il a écrit ces lettres, à un moment donné, en fait, c'est une de ces lettres-là sur laquelle on a retrouvé une lettre écrite en 1475. Et donc, 1475, c'est la dernière époque où il a été, juste avant qu'il revienne sur le trône, parce qu'il faut savoir, comme je l'ai mentionné, il a été sur le trône à trois reprises, entre, il a été pendant à peu près 9 mois en 1448, ensuite il a été détrôné par son frère, il a repris le pouvoir entre 1456 et 1462, il a été à nouveau renversé, et il va reprendre le pouvoir en 1476, pendant quelques mois avant d'avoir la tête tranchée par un soldat ottoman.
Donc, ça, je me demandais s'il allait pas être empalé.
Ouais, c'est ça. Donc, juste avant de reprendre le pouvoir, on est en 1475, il va écrire des lettres où il essaie de s'assurer le support de gens mieux nantis, ce qu'on va appeler des boyards. D'ailleurs, ils les étaient mis un peu à dos parce qu'ils les avaient assassinés, parce qu'ils les avaient accusés à un moment donné d'avoir assassiné ou d'avoir concocté la mort de son père. Mais bref, il a besoin de support politique. Donc, il envoie des lettres et c'est l'une de ces lettres en 1475 sur laquelle on a retrouvé ce qui semble être des résidus de larmes, des larmes qui auraient coulé involontairement dû à cette maladie assez particulière, l'Émo-Lacry, dont il aurait souffert. Et c'est assez amusant parce que, quelque part, tu te dis, c'est quand même incroyable qu'on a un personnage qui a vécu il y a grosso modo 600 ans, et on en parle encore aujourd'hui, il fascine les gens, et on fait des travaux, et de retrouver comme ça, sur des lettres, des éléments très intimes de la vie de Vlad, tout ça grâce à la science qui nous permet, comme tu l'as si bien mentionné, de faire ce bond dans le passé, et de se retrouver littéralement avec Vlad dans sa cellule ou dans son château de Poinéry, alors qu'il écrit des lettres à différents émissaires pour s'assurer leur support dans ses démarches politiques. C'est quand même incroyable.
Imagine tous les mythes qu'on va pouvoir déboulonner sur ces personnages-là de l'histoire qui ont existé.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de l'Émo-Lacry, alors que là, on a une preuve scientifique qui vient appuyer ça, vient en même temps confirmer une partie du mythe du personnage. Parce que évidemment, c'est un personnage plus grand que l'histoire. Hein? Les gens en Roumanie en parlent, puis moi, il y a toutes sortes de choses qu'on m'a racontées à propos de Vlad. Pis c'est sûr que ça repose pas, c'est pas dans des archives. Les gens inventent, ils créent un monde imaginaire dans lequel Vlad joue un rôle extraordinaire. Mais dans les récits, on disait qu'il mangeait de la chair humaine, il n'y a aucun élément qui permet de croire ça. On essaie de le... Évidemment, ses ennemis vont essayer de le diaboliser. Et le dernier des tabous, bien sûr, c'est le cannibalisme.
Ouais.
On va dire, le personnage Vlad, le prince Vlad de Valachie mange les gens. Ben, évidemment, c'est épouvantable. Donc, on essaie de le diaboliser. Mais dans les récits, on dit, bon, il mangeait des gens, il y a des choses qui ont été confirmées, là, le fait qu'il a cloué un turban sur la tête d'un émissaire turc, on sait la forêt des Empalés, on raconte, il y a une légende qu'on m'a racontée, c'est que Vlad, évidemment, c'est une légende, on a dit qu'il y avait à Tirgovich une fontaine publique et que Vlad avait fait mettre un calice en or massif sur les bords de la fontaine. Et les gens allaient à la fontaine pour s'abreuver, prenaient de l'eau pour boire, mais aucun d'entre eux n'a jamais volé le calice en or. De peur de Vlad, hein, tu comprends-tu? C'est une belle symbolique pour montrer à quel point les gens étaient terrifiés par cette vision d'un Vlad vindicatif qui t'aurait assassiné pour un rien, là. Donc, il y a toutes ces histoires-là. Mais parmi ces histoires-là, on racontait que Vlad pleurait des larmes de sang. Donc ça fait partie du mythe du personnage. Et voilà que maintenant, on a une preuve scientifique que cette légende-là de Vlad versant des larmes de sang n'était peut-être pas tout à fait une invention, parce que les éléments biologiques retrouvés sur ces lettres nous permettent de croire qu'il y avait une partie de vrai dans le mythe.
Et que c'est une maladie connue qui a un nom. Fait que ça peut être une possibilité, là.
Absolument. Donc, c'est vraiment incroyable, ces éléments-là. Donc, je voulais absolument te partager ça parce que c'était deux nouvelles qui sont sorties cette semaine en lien avec les vampires et qui nous permettent d'avoir un regard plus éclairé sur ces mythes qui, encore aujourd'hui, alimentent tout un pan de la culture populaire.
Fascinant, Christian, pour cette deuxième épisode de la saison. C'est déjà tout le temps qu'on avait.
Ben, ça me fait plaisir.
Ben, c'est un plaisir partagé, mon cher.
Ben, on se retrouve la semaine prochaine. J'aurais voulu dire que, quand même, ce week-end, une minute pour te dire que ce week-end se tient au Loch Ness, nous dit-on, une grande chasse aux monstres, la plus importante chasse aux monstres depuis les années 70, pour essayer de documenter les apparitions de la créature lacustre. Donc, on nous dit qu'on va faire survoler le Loch Ness avec une armada de drones qui seront équipés de thermique pour déterminer des sources de chaleur dans le Loch Ness. On va également plonger des hydrophones dans l'espoir de capter des sons. Mais évidemment, on ne nous dit pas qu'en 2018, un scientifique était allé là et a déterminé qu'il n'y avait aucun animal inconnu dans le Loch Ness, à part des anguilles. Mais il faut quand même se rappeler aussi que le monstre du Loch Ness injecte chaque année 50 millions de dollars.
C'est énorme.
Dans l'économie locale. Et des petits villages comme Drumnadrochit, hein, qu'on considère comme la capitale du monstre du Loch Ness, ben c'est un petit village. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller là. C'est
non.
Vraiment. Ben, quand je dis la chance, il faut s'entendre. Hein, c'est pas personne. Quand on visite l'Écosse, on visite Glasgow, on visite Edinburgh, mais on ne visite pas Drumnadrochit. Si tu te retrouves à Drumnadrochit, ça ne peut être que pour deux raisons. Ou bien tu t'es trompé de sortie sur l'autoroute, ou bien éventuellement tu espères voir le monstre du Loch Ness. Un tout petit village qui compte 1200 personnes. On a là deux musées consacrés au monstre du Loch Ness, une dizaine d'hôtels, deux gîtes pour accueillir les visiteurs. Chaque jour durant l'été, on organise des traversées du Loch Ness avec des bateaux de croisière qui sont bondés de touristes avec les appareils photos qui espèrent capter des images du monstre. On a des dizaines de boutiques qui nous vendent des toutous, toutes sortes de merchandising liés au monstre du Loch Ness.
Mm-hmm.
Donc, tu comprends que quand un type arrive et vous dit « Non, non, il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, il n'y a que des anguilles », personne ne va se déplacer pour aller voir des anguilles. Donc, on a intérêt à oublier cette histoire-là et de ressusciter le monstre du Loch Ness, redonner ses lettres de noblesse à Nessie. Et c'est probablement un peu ce que va alimenter cette nouvelle chasse aux monstres ce week-end.
Ben, qui sait, peut-être que quelqu'un va soumettre l'idée dans les prochaines années avec une technologie plus au point de faire un voyage en sous-marin?
Je l'ai déjà fait. Écoute, il y a quelques années, on organisait des descentes en sous-marin dans le Loch Ness. Ça coûtait 500 $ pièce. Puis faut quand même le dire, le Loch Ness, c'est à l'époque là dans la préhistoire, c'est une ancienne tourbière. Donc l'eau, hein, c'est une espèce de faille sur des plaques rocheuses et éventuellement le Loch Ness est un peu comme un lac sédimentaire. Donc quand on plonge dans les eaux sont toujours un peu très 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 brouillées à cause justement de la terre et de la boue qui est dans l'eau. Donc finalement, à moins que le monstre vienne te faire un petit coucou dans un hublot, t'as bien peu de chance de voir la créature du Loch Ness. Mais bon, ça coûtait 500 $. Je crois qu'on peut le faire encore aujourd'hui. Moi, je te parle d'une expérience qui remonte. De mémoire, c'était 2004 ou 2005.
Très
à peu
cool.
Près, ouais, c'est ça. Donc, j'avais fait cette descente dans le Loch Ness avec un sous-marin. Mais bon.
Et tu es revenu, tu es là.
Oui, mais
c'était sécuritaire.
Mais il faut quand même se laisser aller un peu quelque part. Quand tu arrives là, il faut que tu mettes un peu tout ton scientifique de côté puis dire bon, OK, c'est la fête du monstre, c'est un peu festif, on va jouer le jeu, tu sais, c'est un peu comme les gens qui vont à un moment donné, c'était très populaire à Québec les espèces de week-ends médiévaux, hein, les gens se réunissaient puis s'habillaient en médiéval puis ça. Ben, tu sais, pendant le temps du week-end, tu vis au 13e ou au 12e siècle, tu comprends? On joue le jeu, là. On sait bien qu'on est en 2005 ou 2010, mais on aime jouer ce jeu-là.
Les promenades fantômes sont encore très populaires dans le Vieux-Québec, là.
Oui, c'est donc, à un moment donné, il faut se laisser un peu aller, puis il y a l'effervescence. Quand on est au Loch Ness, cette effervescence-là, elle est palpable. Mais bon, évidemment, avec 50 millions de dollars de revenus par année, je pense que c'est une bonne motivation.
T'embarques dans le jeu et tu achètes un petit porte-clés pour encourager l'économie locale.
J'ai tout ça, moi. Des porte-clés, des petits toutous, du Loch Ness, j'ai tout ça à la maison.
Oh, c'est très cool. Christian, merci. On se dit à vendredi prochain.